Jean-Jacques Velasco va nous présenter jusqu'à 11h un très beau cas de rencontre rapprochée, un cas qui a été étudié en détail par le service qu'il dirige au CNES. Jean-Jacques Velasco, le cas que vous allez nous rapporter ce dimanche est un des cas les plus intéressants, selon vos dires, que vous ayez dans vos dossiers, un cas que vous avez intitulé La Marante. Alors rien à voir avec l'humour, parce que c'est marrant, non, mais c'est le nom d'une plante, hein, c'est ça?
Absolument, c'est le nom d'un arbuste qui va être en fait le point central de cette affaire.
Alors, ça s'est déroulé où et en quelle année?
Alors nous sommes le 21 octobre 1982, dans la banlieue d'une grande ville, et il est à peu près midi. Lorsque Monsieur L, on va l'appeler comme ça, qui habituellement vient déjeuner chez lui, va donc, comme de coutume, traverser son petit jardin. Et à ce moment-là, il a son regard qui va être attiré vers le ciel. Il fait très beau, c'est une belle journée d'automne. Et donc, il va voir quelque chose qui réfléchit la lumière du soleil, et qui va se diriger, en fait, dans sa direction. Alors, il ne comprend pas. Et puis, cette chose qui semble, à un moment donné, venir carrément pénétrer chez son voisin, va infléchir sa trajectoire. Et là, il se rend compte que c'est un objet. Et brutalement, cet objet va venir se stabiliser, silencieusement, au milieu de son petit jardinet, qui est tout petit, hein, c'est un carré en fait, c'est un carré de quelques mètres, 7-8 mètres au maximum, sur lequel il y a une petite pelouse en gazon, et puis il y a tout à côté son mur de séparation avec le voisin, et puis devant une petite haie avec un grillage.
Bien, alors nous sommes donc en automne, il est midi, donc on y voit de manière très très claire.
Absolument.
Hein, il n'y a pas possibilité de troubles visuels ou de choses comme ça, donc cet objet est à combien de mètres de cet individu?
Alors il va être très très proche, puisque en fait cette personne va l'observer pratiquement à quelques dizaines de centimètres. Mais l'objet est stationnaire à peu près 1,50 m du sol.
Donc en tendant le bras, il pouvait le toucher.
Oui, il n'a pas tenté de le toucher. Je pense qu'il a eu peur. Il a essayé de l'examiner sous toutes les coutures. Il s'est même mis un petit peu en dessous pour voir ce que... Alors c'était une forme assez curieuse.
Décrivez-nous l'objet, oui.
Voilà. L'objet en fait était de forme discoïdale. On retrouve fréquemment cette forme. Donc deux sous-coupes un petit peu accolées l'une au-dessus de l'autre, avec un dôme qui se trouvait sur le dessus. Et ce dôme, curieusement, l'a fasciné, parce qu'il était couleur bleu lagon. C'est la description qu'il en a faite. Une espèce, ça ressemblait un petit peu à de la gélatine, comme il l'a décrit très précisément.
Et le reste était de quelle couleur?
Et le reste était gris beryllium. Alors c'est étonnant, beryllium, parce que le beryllium, ça ne se rencontre pas tous les jours.
Mais qu'est-ce que c'est le beryllium?
Alors qu'est-ce que c'est le beryllium? Eh bien le beryllium, en fait, c'est un métal, qui est il est assez rare en ce sens qu'il est utilisé simplement dans les techniques aéronautiques pour faire les pointes de fusée. Alors vous voyez donc quelque chose d'extrême, ou des instruments de chirurgie.
Oui, mais ce monsieur a l'air d'être très pointu.
Oui, alors
dans
ce
la
monsieur.
Connaissance des métaux par exemple.
C'est ça, et c'est ça qui est intéressant, c'est que la veille ou l'avant-veille, il était allé dans une exposition qui montrait donc des matériaux, des matériels pour le médical et le spatial. Et en fait, ce qu'il faut surtout préciser, c'est que cette personne est un scientifique, est un biologiste.
Jean-Jacques Velasco, continuons la description des faits qui sont arrivés à ce monsieur que l'on appelle monsieur L, qui veut garder l'anonymat, vous nous expliquerez peut-être pourquoi l'heure. Donc nous en étions à cette rencontre pour le moins étrange, lui arrive dans son jardin, nous sommes en automne, il est midi, et cette chose arrive et stationne à 1 mètre du sol, hein, c'est ça?
Absolument.
Voilà. Donc il a le temps d'en faire le tour, de la regarder sur toutes les coutures, si je veux dire.
L'observation a duré 20 minutes. 20 longues minutes. Alors on peut se dire, bon, comment cette personne a pu déterminer 20 minutes d'observation? À la limite, on peut très bien mettre en doute la durée, surtout que la durée est souvent un facteur extrêmement...
Le temps dans ce genre de situation peut paraître très long.
Oui, il peut paraître long, mais aussi c'est un facteur qui n'est pas mesurable si nous n'avons pas un chronomètre pour en fait mesurer le temps. Et là, la personne a noté le temps. À savoir qu'elle est arrivée donc à midi à peu près, et comme cette personne travaille dans un laboratoire de biologie, elle est habituée lorsqu'elle fait des expériences à mesurer avec son chronomètre le temps, et c'est ce qu'elle a fait. Et donc la durée totale de l'observation est de 20 minutes, ce qui est considérable. À notre connaissance, on n'a jamais eu de cas de cette nature.
Alors, je suppose, enfin, c'est ce que j'aurais fait si j'avais été à sa place, en voyant cet objet stationné là sous mes yeux, j'aurais essayé d'une manière ou d'une autre d'entrer en contact avec.
Oui, alors c'est vrai que la personne a d'abord essayé de prélever, en fait, de montrer qu'il avait observé cet objet, s'est précipité pour prendre son appareil photographique. Cet appareil photo, malheureusement, était en panne puisque le déclencheur ne fonctionnait pas. J'ai eu l'occasion, avec les gendarmes, de le constater, malheureusement. Donc, pas de traces de photographie, une fois de plus.
Ouais.
Et donc, tout repose, en fait, sur le témoignage et autre chose. Mais ce qui est intéressant, c'est que l'observation a duré 20 minutes et pendant ces 20 minutes, la personne a essayé de voir ce dont il s'agissait, allant même jusqu'à essayer de rentrer en contact et de parler à la chose.
Ouais.
Dans toutes les langues du reste, en anglais, en allemand, en français, et sans réponse.
Bon, bien. Alors, ça c'est l'observation, elle a duré 20 minutes. Que s'est-il passé au bout de ces 20 minutes?
Alors, au bout de ces 20 minutes, et c'est là où je pense que ce cas prend une tournure exceptionnelle, c'est que la personne, constatant cet objet immobile, a vu soudainement l'herbe, le gazon, en fait, se soulever à la verticale. Et ensuite, l'objet est parti dans le ciel. Alors, cet élément en lui-même peut paraître anodin dans le cadre du témoignage, mais pour l'analyste, cet élément est extrêmement important et vous
le
allez voir pourquoi.
Le fait que le gazon se redresse,
absolument.
Comme quand les cheveux se hérissent sur la tête,
oui,
par exemple.
Tout à fait. Et ça, ça dénote quelque chose de très important, à savoir que ça montre qu'il y a probablement un champ électrique très puissant qui a soulevé les brins de gazon.
Jean-Jacques Velasco, nous avons avec vous exploré les faits. Hein. Maintenant, voyons un petit peu ce qui vous fait dire, vous fait nous présenter ce cas comme étant un cas exceptionnel. Et d'abord, il n'y a qu'un témoin.
Oui, alors ça, c'est
un
peu, c'est un peu le point faible de cette affaire. Il n'y a qu'une personne. Deuxièmement, on a affaire à un phénomène qui est de petite dimension, confiné, donc dans un endroit extrêmement restreint.
Quelles sont les dimensions de l'appareil, au fait? On n'en a pas parlé.
À peu près de l'ordre, là aussi, de 1,50 m à 1,80 m
de
diamètre, oui.
Ouais. Donc, il n'y a qu'un seul témoin.
Oui.
Il aurait pu raconter des bobards, après
tout. Il aurait pu raconter des bobards, tout à fait. Mais ce qui est intéressant, c'est que non seulement cette affaire du gazon est intrigante, mais elle ne repose simplement que sur un constat visuel, encore une fois,
ouais,
sur une description. Mais il y a autre chose.
Alors, avant d'attaquer cette autre chose, parlez-nous un petit peu du bonhomme. Que fait-il dans la vie, sa profession?
Dans la vie, ce monsieur est un chercheur, c'est un scientifique, il travaille dans un centre de recherche et il est biologiste.
Bon, donc déjà quelqu'un qui a l'habitude d'observer de manière méthodique.
Ah oui, à la limite même, je dirais, c'est presque de la maniaquerie. De sa part, puisque on a pu constater en le regardant vivre pendant quelques heures que son jardin était tenu d'une façon exceptionnelle, qu'il était entomologiste à ses heures, c'est-à-dire qu'il s'occupe des insectes,
ouais,
il les collectionne. Bref, c'est quelqu'un qui aime la rigueur, la propreté, l'ordre.
En ce qui concerne un rapport de moralité, ce n'est,
oui,
pas le genre de gars à être mythomane, à raconter des choses un petit peu bizarres.
Non, son discours n'était absolument pas porteur d'une quelconque croyance ou d'une quelconque référence aux ovnis.
Mm-hmm.
Et ensuite, je pense que il a été très 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 discret, parce que il est bien évident qu'un scientifique parlant des ovnis, il est sûr qu'aujourd'hui on risque probablement sa carrière.
Donc c'est pour ça qu'il a tenu à garder l'anonymat.
Absolument.
Bien, nous allons revenir donc dans quelques minutes, après avoir étudié un petit peu le bonhomme, hein, parce que tout le témoignage repose après tout sur lui, mais ce témoignage, cette affaire repose également sur deux autres choses, et là on va en parler tout à l'heure. Jean-Jacques Velasco, donc après l'étude de la moralité, un petit peu en quelque sorte, du témoin principal et unique, dites-nous un petit peu ce qui, les éléments, racontez-nous un petit peu les éléments qui ont fait que ce témoignage est exceptionnel. Cette affaire est exceptionnelle.
Alors, cette affaire est exceptionnelle aussi pour un deuxième élément, c'est en fait une trace qui a été laissée sur la végétation, et en particulier sur une sorte de plante, enfin, qu'on appelle l'amarante. Et l'amarante, c'est un arbuste qui, à cette époque de l'année, donc conserve toutes ses feuilles, mais qui a en plus la particularité d'avoir de magnifiques grappes de couleur Bordeaux.
Ce qu'on appelle les queues de renard.
C'est ce qu'on appelle les queues de renard.
D'accord.
Et donc cette amarante, en fait, va nous montrer et va nous indiquer qu'il s'est passé quelque chose en relation avec le phénomène observé.
Donc, il y a deux éléments physiques, enfin palpables, que vous avez mesurés, je suppose. Alors, le gazon qui se redressait,
oui,
comme les cheveux qui se hérissent sur
absolument
la tête, et l'amarante qui a, selon vous, subi une transformation.
Oui, alors, l'amarante...
On commence par laquelle ?
Alors, on va commencer par le gazon.
D'accord.
Alors, le gazon, ce qui est intéressant, c'est que nous avons fait des expériences, des expérimentations au laboratoire sur justement sur de la végétation et sur du gazon. On les a soumis à des champs électriques et on s'est aperçu qu'à 30 kV par mètre, en fait, le gazon se soulevait.
C'est beaucoup, 30 kV.
Alors, 30 kV par mètre, oui, ce sont des champs électriques qui sont relativement intenses,
ouais,
qu'on peut commencer à trouver lorsqu'il y a par exemple, des situations orageuses. Vous savez, quand vous avez ces phénomènes d'effet couronne qui se produisent, quand on a par exemple des étincelles qui sont sur les souches d'arbres, on est un petit peu dans ce
d'accord,
genre de configuration. Alors donc, 30 kV par mètre, c'est important. Et là, étant donné que en fait, l'herbe s'est soulevée, on peut considérer que le potentiel, donc la différence de potentiel entre l'objet présumé et le gazon, devait être de l'ordre de supérieur tout au moins à 80 kV à 80 kV.
Donc
c'est considérable et c'est un indice comme quoi, en fait, l'environnement était soumis à un champ électrique.
Bien, parlons maintenant du deuxième facteur, du deuxième élément. Il s'agit de ces queues de renard, de cette haie d'amarante.
Oui, alors là, c'est un élément également très, très important, en ce sens que la gendarmerie nationale s'est rendue sur les lieux tout de suite après. Elle a fait des prélèvements, en particulier, ils ont prélevé le pied d'amarante. Ils l'ont conservé à la brigade de gendarmerie, malheureusement, dans des sachets en plastique, ce qu'ils n'auraient pas dû faire. Ils auraient même carrément dû le laisser à l'endroit. Et puis,
ils ont voulu trop bien faire.
Ils ont voulu trop bien faire, mais bon,
on ne
peut pas leur reprocher. Simplement, c'est que ça ne nous a pas permis de faire une investigation et une analyse biochimique, notamment approfondie sur ce pied d'amarante. Mais néanmoins, on a pu constater, et j'ai encore conservé les échantillons dans un congélateur, parce que je crois que c'est ouais, quand même intéressant, c'est que à la hauteur présumée où se trouvait le phénomène, des caractéristiques
le phénomène, l'objet volant non identifié.
Voilà, importantes apparaissaient. Premièrement, les feuilles étaient toutes recrevillées, donc elles étaient enroulées
raccornies
sur elles-mêmes, complètement
ouais,
raccornies, et de couleur marron. C'est-à-dire qu'il semblait qu'il n'y avait plus du tout d'eau contenue à l'intérieur des feuilles.
Comme s'ils avaient pris un coup de gel.
Un coup de gel ou un coup de chaud.
Un coup de chaud, oui, oui, oui.
Un
oui,
coup de gel ou un coup de chaud,
oui, oui, oui.
Absolument. Et deuxièmement, chose encore plus curieuse, les fameuses queues de renard, constituées de multitudes de petites graines, eh bien ces graines, quand on les observait en détail, à la loupe et au microscope, on voyait que les enveloppes, les coques, donc, étaient éclatées, et les graines étaient cuites à l'intérieur.
Cuites ?
Cuites, j'ai bien dit cuites, oui. Un laboratoire de Toulouse en physiologie végétale a examiné ces graines et a constaté qu'elles étaient cuites.
Jean-Jacques Velasco, c'est vrai que cette affaire que vous avez appelée l'amarante est quand même tout à fait étonnante. Quelles sont les conclusions que vous en tirez ? Bon, il y a cette histoire de gazon qui se redressait, il y a cette amarante que vous avez pu donc faire parler, entre guillemets, il y a ce témoignage d'un scientifique qui a l'air tout à fait probant. Donc, quelles sont les conclusions que vous en tirez, vous, de cette affaire ?
Ben, les conclusions qu'on en tire, c'est qu'encore une fois, on est confronté à quelque chose que l'on commence à cerner. Cette fois-ci, on avait effectivement plusieurs éléments qui attestent que l'histoire n'est pas inventée, que l'histoire n'est pas une affabulation. Et encore une fois, c'est l'analyse globale qui nous permet de le supposer. Mais malheureusement, ce phénomène échappe encore à notre connaissance par le fait même que nous ne pouvons pas avoir la preuve formelle et matérielle en saisissant un objet dans toute sa dimension.
Ouais, ouais. Est-ce que ce scientifique, puisqu'il s'agissait d'un scientifique, n'aurait pas pu provoquer lui-même à l'aide d'appareils, je ne sais comment,
bien sûr, mais
ce genre de phénomène sur le gazon et sur son pied d'amarante ?
Vous vous doutez bien qu'on a essayé de reconstituer, par exemple, avec des sèche-cheveux, donc ce genre de simulation sur les végétaux.
Ouais.
Ça ne produit pas du tout les mêmes effets. On a essayé de voir si on pouvait, à l'aide de produits chimiques, faire des effets similaires, ou voir bon, si on pouvait essayer de modifier le comportement des gazons avec
Ouais.
quelque chose, avec un apport particulier. Non, on n'a pas réussi jusqu'à présent à reproduire ces phénomènes sur la végétation. Quant à la personnalité du témoin, un psychologue a examiné ses réactions, sa subjectivité, son comportement. On n'a rien trouvé qui aurait tendance à montrer que cette personne a inventé son histoire, est un mythomane ou a fait une hallucination.
Hello, il est l'heure de conclure cette deuxième heure, cette fois-ci avec vous, Yves Lignon. Alors, en ce qui concerne les généralités concernant les cas d'ovnis, j'avoue que ça me laisse rêveur quand Jean-Jacques Velasco me raconte tous les moyens dont il dispose pour pouvoir étudier un cas à fond.
Oui, d'une part, Louis, mais
Je vais faire
moi.
le parallèle avec le monde de l'étude que vous faites
Oui.
des phénomènes paranormaux, où
Oui,
au niveau institutionnel, il n'y a pas grand-chose
bien
comme
sûr, oui,
exemple.
mais ce n'est pas se lamenter qui est intéressant. Moi, quand j'écoute les histoires vraies que raconte Jean-Jacques Velasco, comme celles qu'il vient là de nous détailler, j'ai une double réaction. D'abord, j'aime les histoires merveilleuses, première casquette. Par ailleurs, je suis mathématicien, deuxième casquette. Il ne faut jamais mélanger les deux casquettes à la fois. Là, les avoir les deux sur la tête, on est ridicule. Et donc, quand même, je réagis en mathématicien, pas en spécialiste des ovnis, et je me dis, coquin de Palio, quel dossier! Hein, c'est un peu ça. Et justement, quand on entend comme ça un spécialiste qui vous présente le dossier bien en détail, on se dit que si certains, des scientifiques d'ailleurs souvent, déclarent les ovnis, c'est farfelu, on écarte ça d'un revers de main en vous disant voilà l'explication. En réalité, ce qui est farfelu, ce sont les hypothèses qu'on nous propose. Et face à un cas comme celui-là, quand on vous dit c'est un fantasme, c'est une hallucination, voilà un témoin qui, s'il était sujet aux hallucinations, n'exercerait certainement pas la profession qu'il exerce. Bon. On vous dit, oh, ce sont des gens qui ont lu trop de romans de science-fiction. Ça, c'est pas mal non plus. Il faudrait demander à la marrante dans cette histoire ce qu'elle pense des romans de science-fiction. Vous voyez? Et finalement, moi, j'en arrive tout ça avec mes gros sabots de mathématicien, pas plus, à me dire que c'est vrai, que si on raisonne sérieusement, si on accepte l'existence du problème, au bout d'un moment, on en revient à cette hypothèse que les gens comme Jean-Jacques Velasco ou comme Richard Nolat appellent l'hypothèse tôle et boulon, à savoir, il y a vraiment eu un engin. Qui est venu là, un engin volant non identifié. On découvre que OVNI, c'est ce qui convient le mieux. Alors évidemment, les sceptiques vous disent non identifié, bien entendu. Mais objet volant, on discute. Moi, il me paraît difficile de discuter la présence d'un objet volant dans un témoignage comme celui-là. Maintenant, une fois qu'on a fait ce constat, de suite, objet volant, mais qui de toute évidence, et encore là aussi, on pourrait prendre l'avis de la marrante, un objet volant qui échappe à notre technologie.
Tout à fait.
Alors à partir de ce moment-là, évidemment, toutes les hypothèses sont ouvertes, mais quand on dit ça échappe à notre technologie et d'autres hypothèses sont ouvertes, ce ne sont certainement pas des hypothèses farfelues, même si pour les énoncer, on a besoin de l'expression extraterrestre.
Autre sujet, autre dossier entre 11h et midi. Nous allons avoir besoin de votre concours. Vous pouvez nous poser des questions au 0803 020 030. Nous parlerons des rapports qu'a la presse avec les phénomènes paranormaux.